Dans l'actualité des idées aujourd'hui, être économiste en temps de crise, à quoi ça engage? Quel rôle dans la cité? Invité l'économiste franco-américaine Esther Duflo, professeure au Massachusetts Institute of Technology, co-lauréate du prix Nobel d'économie, avec ses confrères du Poverty Action Lab, avec Abhijit Banerjee. Elle signe au printemps, juste avant le confinement, avant la déclaration par l'OMS de l'état de pandémie, un essai au seuil, économie utile pour des temps difficiles, où elle réfléchit aux grandes questions de notre temps, croissance, inégalité, environnement, immigration, les impasses des débats et les bons postulats. Bonjour à vous, Esther Duflo.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Vous vous sentez plus utile que jamais aujourd'hui?
Je ne sais pas. En un sens, je sens qu'il y aurait plus, besoin d'économistes, mais ils sont aussi de moins en moins écoutés. Donc, je ne sais pas si le bilan est globalement positif sur l'utilité des économistes.
L'ont-ils jamais vraiment été?
Écoutés ou utiles?
Écoutés.
Je pense qu'ils ont été plus écoutés qu'une époque. Ils ont été plus écoutés, en particulier à l'époque à la grande époque de Reagan, où il y avait une domination d'une vision de l'économie très, très simple et très caricaturale, mais qui avait qui était très puissante et qui en quelque sorte est encore domine encore à la fois la perception des économistes et une partie de leurs recommandations dans l'espace public, malheureusement.
Vous avez un livre à défendre aujourd'hui encore, mais vous pensez qu'il est de votre responsabilité aussi de prendre part au débat public. C'est ce que vous écrivez dans Économie utile pour des temps difficiles. Si ce n'est pas de prédire, quel devrait être pour vous le rôle des économistes?
C'est exactement pour ça qu'on a écrit ce livre, Économie utile pour des temps difficiles, pour se faire un petit peu les porte-paroles ou les messagers d'une profession qui est beaucoup plus diverse et beaucoup plus riche que l'image qu'on en a généralement. Quand on pense à un économiste, typiquement, on pense soit à quelqu'un qui essaye de faire des prédictions sur le taux de croissance, auquel cas on en a une mauvaise image parce que les prédictions sont en général catastrophiquement fausses, soit on imagine quelqu'un en cravate et en costume qui va au journal de 20 heures et qui en général non pas un économiste académique, non pas quelqu'un qui fait de la recherche, mais quelqu'un qui travaille comme économiste en chef d'une banque et qui de ce fait représente volontairement ou involontairement les intérêts de cette banque et donc un certain statu quo.
Voilà, ce sont des experts. Vous passez beaucoup de temps dans votre laboratoire à chercher. L'économie n'est pas une science exacte, vous l'avez dit et répété. C'est aussi pour ça que vous n'avez pas choisi de vous engager en politique aux côtés d'un candidat, comme certains de vos confrères l'ont fait, comme aujourd'hui encore, ils ont pu, ou vous avez pu peut-être être sollicité.
Je suis entrée en économie, où j'ai choisi l'économie comme profession pour être utile. Donc ce désir d'être utile qui est reflété dans notre titre, il vient de bien plus loin. Mais la manière pour il y a plusieurs manières potentiellement pour des économistes d'être utiles. Et je pense que un économiste peut tout à fait être utile en mettant des positions idéologiques clairement sur le tapis et en soutenant des personnalités politiques qui les reflètent, ou même en entrant en politique lui-même ou elle-même, qui sait. À la fois mon tempérament et je pense ma force est un tout petit peu différente, c'est-à-dire c'est plus de travailler directement un petit peu avec n'importe qui se trouve être au pouvoir et a des intentions pures, et de travailler sur ce que j'ai appelé la plomberie, c'est-à-dire quand on essaye de mettre un programme, quand les grandes lignes idéologiques sont claires, il y a énormément de chemin à faire dans la mise en œuvre pratique de ces politiques. Et ce chemin a de nombreuses opportunités de s'égayer dans la nature et de conduire à quelque chose qui finalement ne fonctionne pas. Donc tout mon travail et la création du laboratoire d'action contre la pauvreté, c'est vraiment l'effort de travailler à un niveau un petit peu plus souterrain que le niveau politique en sens politique électoral, de travailler plus directement avec des gens qui sont dans l'action, que ce soit des fonctionnaires, des maires, des collectivités locales, des ONG, des administrations aussi, pour les aider à faire ce qu'ils veulent faire de toute façon. Donc de mon point de vue, l'économiste a un rôle très utile, pas forcément quand il détermine les grandes lignes, ou elle détermine les grandes lignes, mais quand elle appuie une bonne mise en place et une bonne définition des politiques qui peuvent être efficaces pour déterminer ces grandes lignes.
Mmh. Économie utile pour des temps difficiles, c'est le titre de cet essai que vous co-signez avec Abhijit Banerjee. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que les temps sont particulièrement difficiles ou autrement dit, comment vous qualifieriez ce moment, le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui ?
Ce livre a commencé à être écrit en 2018 et on a commencé à l'écrire justement parce qu'on a trouvé que les temps étaient vraiment difficiles, même 2017 en fait, après le Brexit, l'élection de Trump, et où on a vu une espèce de noircissement de l'humeur et de l'incapacité d'avoir un débat social et politique raisonné sur beaucoup des sujets qui préoccupent le monde entier, que ce soit l'immigration, le commerce, la montée des inégalités, la polarisation, le racisme, etc. Donc on trouvait déjà les temps difficiles. Depuis, ils se sont pas vraiment améliorés sur aucun de ces sujets. Et puis évidemment, en sus de ça, le coronavirus a frappé, ce qui rend les temps clairement encore plus difficiles pour énormément de gens dans la planète et aussi beaucoup plus incertains, mais qui en même temps peut-être crée des opportunités de rafraîchir ce débat et de se remettre à parler.
Qui rend peut-être aussi visible des fractures ou des inégalités qu'on avait cessé de voir. Est-ce que vous êtes particulièrement quand même alarmiste aujourd'hui ?
Non, j'ai une tendance à toujours voir le verre à moitié plein autant que possible. C'est vrai que les inégalités, en particulier aux États-Unis, les inégalités raciales sont devenues encore plus marquées, puisque on le savait, hein, qu'il ne fait pas bon être noir aux États-Unis, et que ça n'a jamais été le cas. Mais aujourd'hui, ajusté pour l'âge, la probabilité de décéder du coronavirus est 3 fois plus élevée pour les Afro-Américains, les Latinos et les American Indians. Et donc tout d'un coup, ça devient tellement manifeste dans la survie des gens. Je pense que c'est pas étranger à l'intensité des manifestations qui ont suivi les meurtres de George Floyd, Ahmaud Arbery et Breonna Taylor. Parce que des meurtres de noirs américains, il y en a eu avant et qui n'ont pas déclenché un mouvement tellement important à la fois parmi les noirs et parmi les blancs. Mais à nouveau, je pense qu'il y a aussi la possibilité il y a aussi une ligne d'espoir dans ces manifestations-là, c'est-à-dire que le fait que ces inégalités soient tellement flagrantes et tellement visibles, je crois que pour la première fois dans notre génération en tout cas, toute une génération de blancs, et en particulier même les entreprises qui pensent maintenant qu'il est de bon ton de ne pas être raciste, etc., veulent prendre un peu veulent jouer un rôle dans l'amélioration de la situation. Et je pense que s'il y a assez de gens qui veulent jouer un rôle dans l'amélioration de la situation, elle peut s'améliorer.
Dans le livre, vous dites que nous avons aujourd'hui besoin d'un keynésianisme intelligent. C'était le cas avant la pandémie, avant le confinement. On imagine que c'est encore plus le cas aujourd'hui. Les États sont sommés ou se disent qu'ils doivent intervenir. Mais intervenir pour soutenir qui ? Je vous propose d'en venir au cas français et d'écouter ce qu'en dit le Premier ministre Jean Castex.
Je veux rappeler ici l'engagement que nous avons pris avec le président de la République, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Nous bénéficierons d'un financement européen de ce plan de relance à hauteur de 40 milliards d'euros. Sur tous les projets dans les territoires, que ce plan va financer, l'Europe sera présente à hauteur de 40%. Nous avons par ailleurs fait le choix d'une relance fondée sur des dépenses non pérennes qui représentent 80% du plan. On en attend un très rapide retour sur investissement. Il est économiquement et socialement infiniment préférable de dégrader temporairement les soldes publics pour investir, réarmer l'économie et repartir de l'avant, plutôt que de s'enfoncer dans l'austérité, laisser exploser le chômage, la misère et les drames humains.
Avant d'en venir aux différentes mesures, Esther Duflo, pas de hausse d'impôts, des dépenses non pérennes, des soldes publics temporairement dégradés pour investir. Est-ce que le raisonnement d'ensemble du gouvernement vous semble bon ?
Dans le court terme, c'est absolument clair. C'est-à-dire dans le court terme, il n'y a pas le temps d'avoir une grande discussion sur une hausse des impôts pour qui, comment, dans quelles circonstances. Parce qu'il faut agir, il fallait agir, et il faut encore agir très très rapidement pour éviter justement ce dont Castex parle, la dégradation de la situation économique. C'est-à-dire, il est nécessaire pour un nombre important de gens d'arrêter de travailler à cause du virus. Mais si on n'agit pas rapidement pour limiter ça, cette crise en fait explose et fait un effet boule de neige. Un effet keynésien boule de neige, justement, qui se traduit par une crise beaucoup plus large. Et je pense que les pays européens ont tiré les leçons de ce qui s'est passé après la crise de 2018, où ils sont revenus beaucoup trop rapidement à l'austérité qui a conduit à une prolongation de la crise beaucoup plus importante qu'elle n'aurait été si on avait continué à supporter et à soutenir les ménages économiquement plus longtemps. Après, la question se pose de la suite, c'est-à-dire dans le court terme, on agit très rapidement avec par exemple le chômage partiel, le soutien de la consommation, etc., pour éviter une accélération de la crise. C'est essentiellement gratuit parce que le s'endetter, surtout pour l'Europe dans son ensemble, est très très peu cher en ce moment. Mais ça n'empêche pas d'après de se poser la question, une fois qu'on aura le plus gros de la crise derrière nous, de est-ce qu'on veut du coup saisir l'occasion de ce moment pour repenser un petit peu plus profondément la solidarité nationale. Et est-ce que on se rend compte maintenant que tout d'un coup tout le monde a eu besoin d'aide, que notre système de solidarité nationale est trop punitif, enlève la fierté, l'estime de soi que peuvent avoir les gens d'une manière qui est injustifiée. Est-ce qu'on veut changer ça? Et est-ce qu'on veut changer ça au prix justement d'une réforme fiscale et d'une fiscalité qui serait plus progressive? Donc dans le court terme, je pense qu'on n'a pas le temps d'avoir ces débats-là, donc il faut agir rapidement, il y a plein de choses à faire, à la fois que ce soit sur le volant, disons, de santé de la crise et sur le volant d'urgence économique. Dans le moyen terme et le long terme, il faudra quand même réfléchir à ce qu'on en tire sur les... comme leçon sur la solidarité.
Et déjà, beaucoup se posent, même là, à court ou moyen terme, la question de la dette. Vous abordez dans ce livre les questions qui font débat aujourd'hui chez les économistes, les mesures qui divisent, les remèdes qui font consensus. Sur cette question de la dette, la dépense publique a augmenté, le déficit s'est déjà creusé. Alors certains disent stop à la pensée monétaire magique, on va pas tout le temps pouvoir vider le portefeuille. D'autres disent qu'au contraire, il faut clairement se poser dès aujourd'hui la question de l'annulation des dettes publiques et que ça relève pas de la pensée vaudou. Ça, c'est notamment les termes de Gaël Giraud sur cette question-là. Vous pensez qu'on doit commencer dès maintenant à s'en préoccuper et dans quelle direction?
Je pense que le consensus de toute la profession, c'est que il n'y a aucune raison de se préoccuper des déficits ou de la dette dans le court terme. C'est-à-dire, justement, en ce moment, les taux d'intérêt sont très très faibles. La notation de l'Europe va pas baisser parce que l'Europe s'endette pour faire face au coronavirus. Et toutes les dépenses qu'on fait aujourd'hui vont permettre d'éviter des dépenses beaucoup plus importantes dans les années à venir si on s'enlisait dans la crise. Donc je pense que tous les pays qui ont le luxe de pouvoir s'emprunter sans attaquer leur notation de crédit, ce qui est tous les pays riches, et malheureusement la situation est très différente dans les pays pauvres, le font, ils doivent le faire. Je pense qu'il faut, personne ne se dit que c'est quelque chose sur lequel il faut se préoccuper, parce que c'est pas un changement structurel. Donc c'est un petit peu difficile à comprendre que l'État n'est pas un bon père de famille, il n'a pas besoin de se comporter en bon père de famille. Que l'endettement dans une situation comme ça, en quelque sorte, on n'aura jamais besoin de le payer. Mais c'est quand même réel. Et donc pour l'instant, je pense à nouveau sur le court terme, faut pas s'inquiéter. Sur le moyen terme et le long terme, évidemment, on recherche, quand on est sorti de la crise, une certaine stabilité financière qui met les revenus à peu près en regard des dépenses.
La 100 milliards d'euros annoncés pour ce plan de relance par le gouvernement français et un Premier ministre, Jean Castex, qui veut voir créer 160 000 nouveaux emplois d'ici 2021. Mais quels emplois ? La question se pose aujourd'hui encore. L'anthropologue David Graeber est décédé la semaine dernière à l'âge de 59 ans d'Occupy Wall Street à la London School of Economics. Vous connaissiez ses travaux ?
Je ne le connaissais pas lui, je connaissais ses travaux comme tout le monde.
Dans un entretien qu'il nous avait accordé il y a 2 ans, au moment de la parution en France de son livre sur les bullshit jobs, les jobs à la con, il mettait en garde contre la perte de sens et donc de valeur du travail aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos systèmes ultralibéraux.
Les gens comprennent ce qu'est l'effet de leur travail mieux que nous. Les gens ne sont pas idiots. S'ils font quelque chose qui n'a aucun sens, ils le comprennent. Et s'il y a une façon que leur travail est utile aux gens, ils vont comprendre aussi. Donc il faut croire les gens, il faut leur faire confiance. Quand je regarde des enquêtes qui me disent qu'entre 37 et 40% de gens pensent que leur travail est absurde et que si leur emploi disparaissait, ça ne ferait aucune différence, mais moi ça a été très surprenant. Non, pour moi, les résultats de cette enquête.
Voilà, entretien passionnant à réécouter, si vous le souhaitez, sur le site de la Grande Table, sur franceculture.fr. Est-ce que vous craignez, vous, Esther Duflo, une inflation de ces jobs à la con pour gonfler les chiffres de l'emploi ?
Non, je pense qu'il y a une place énorme, des opportunités énormes pour des jobs qui ne sont pas du tout à la con. Des jobs qui sont pas du tout à la con et qu'on a supprimés au cours du temps pour faire des économies. Et ce dont on parle dans notre livre sous le nom de keynésianisme intelligent, c'est justement de financer des jobs qui ne sont pas qui seront jamais viables économiquement, mais qui sont utiles aux gens et qui seront aussi très difficilement remplaçables par le commerce international ou par la technologie. Donc par exemple, et dont on voit l'utilité immédiatement. Donc par exemple, tout ce qui est le support de la petite enfance, qui crée des jobs qui sont absolument pleins de sens, dont on voit immédiatement l'utilité, qui crée des jobs qui peuvent être occupés par des hommes ou par des femmes, qui crée des jobs qui ne seront jamais remplacés par des ordinateurs et qui crée des jobs qui ont des investissements à long terme qui sont énormes. Et là, peut-être que dans la pandémie, on l'a vu, qu'il faut encore plus de gens qui s'occupent des petits-enfants, parce que si on veut pouvoir faire ça dans des conditions de santé suffisante, il faut plus d'emplois et aussi de meilleures conditions pour l'emploi. À l'école, on a supprimé tous les jobs parascolaires, les surveillants, les infirmières. On voit bien que ce genre de job, d'avoir plus de ce genre de job, c'est un win-win-win. C'est créer des jobs qui ont énormément de sens, qui sont accessibles après une formation limitée et qui ont de l'utilité à la fois pour remettre les gens au travail et pour le futur des enfants. Le le soutien aux personnes âgées, de pouvoir garder les personnes âgées chez elles, ça aurait évité d'avoir beaucoup de gens en EHPAD. On a vu la situation de l'EHPAD, donc à nouveau, c'est des jobs qui sont pleins de sens, des jobs qui sont accessibles et des jobs qui sont absolument irremplaçables mais pour ça, il faut accepter d'avoir des budgets importants dans ces secteurs et donc de pas les couper.
C'est la question aujourd'hui. Parce que dans votre livre, vous parlez effectivement de ces emplois utiles avec des rémunérations justes. Vous invitez même les gouvernements à accroître cette demande pour des services publics plus intensifs, des jobs qui tendent vers une société plus juste. C'est intéressant parce que pendant le confinement et le pic de la crise sanitaire, ces métiers utiles sont revenus sur le devant de la scène. Santé, éducation, petite enfance, personnes âgées, on a beaucoup valorisé, revalorisé ces métiers, en tout cas dans les discours. Mais votre confrère Thomas Piketty, l'économiste, dit que pour lui, justement, dans ce plan de relance, dans la partie investissement, c'est-à-dire un tiers des 100 milliards d'euros annoncés, ils sont trop dirigés vers le secteur marchand, vers les entreprises, et pas assez vers le secteur public, vers ces domaines de l'éducation, de la santé, de la recherche que vous venez d'évoquer. On pourrait trouver un système, des mesures où l'un n'empêcherait pas l'autre, où on pourrait investir sur ces deux pieds-là.
Ben, je pense que dans la mesure où il y a à faire un choix, je suis d'accord avec Thomas Piketty qu'on devrait orienter ce choix peut-être davantage que ce qui a été fait vers ces secteurs-là, parce qu'on les a aussi énormément coupés. Et la raison pour laquelle on les a énormément coupés, c'est qu'on sous-estime leur gains. Et on sous-estime leurs gains à la fois pour les personnes directement concernées, les enfants, les personnes âgées, etc. Et là, aujourd'hui, on se rend compte plus de la valeur maintenant. Et aussi, on a jamais vraiment pris en compte dans la valeur de ces emplois pour la société le fait que ce sont des emplois dignes et des emplois qui sont le contraire de bullshit job, et que avoir des emplois dignes dans une société, c'est important pour le fonctionnement de la société. Et donc, cette valeur-là, on la compte pas. Et du coup, c'est les premiers jobs qu'on vient à couper, où on n'a plus trop d'argent dans les budgets. Donc, allons couper tous les surveillants des cantines.
La dernière fois qu'on vous recevait, Esther Duflo, c'était au moment où vous intégriez le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Aujourd'hui, comment va l'école pour vous? Est-ce qu'on attaque une rentrée très particulière dans un moment très particulier? Est-ce que l'éducation nationale, pardon, saura faire face à toutes ces missions dont on est en train de l'investir aujourd'hui?
Ben justement, je pense que s'il y avait énormément plus d'emplois parascolaires, ce serait beaucoup plus simple. Et je suis un petit peu déçue qu'on n'ait pas saisi cette opportunité pour les créer. Et contrairement à Jean Castex, je pense qu'il serait plus utile maintenant et dans le futur s'ils étaient créés de manière pérenne. Par ailleurs, on redemande aux écoles d'ouvrir, ce qui est vraiment très très bien et très très important, mais sans vraiment leur avoir donné les ressources financières pour le faire dans des conditions très différentes de ce qui était auparavant. Ce qui fait qu'en fait, je pense que dans beaucoup d'établissements, les conditions d'accueil des élèves ne sont pas tellement différentes de ce qu'elles étaient avant. On a discuté du problème de la gratuité des masques en disant « Oh là là, on peut pas avoir la gratuité des masques parce que il faut responsabiliser les Français. » Dans les écoles, dans les collèges, enfin c'est un argument qui est quand même très étonnant de penser on peut compter sur la responsabilité d'un enfant de 11 ans pour
non peut-être celle de la famille, ouais,
ou de ses parents, ne fait pas grand sens. Et je pense que la réalité, c'est que le choix de ne pas offrir la gratuité des masques au niveau national, c'est parce que on n'a pas voulu faire l'effort financier et surtout l'effort logistique. D'ailleurs, pour distribuer les masques à tout le monde régulièrement, il faut que quelqu'un soit là pour le faire. Voilà, c'est pas un effort énorme, mais c'est un effort qui est difficile dans l'éducation nationale, ou qui est tellement, tellement, tellement à cran, où tous les personnels sont complètement surchargés parce que on a éliminé tous les les jobs qui étaient autour.
Ouais, c'est d'autant plus difficile aujourd'hui qu'il faut, pour ces personnels, s'adapter au jour le jour, adapter aussi, s'adapter à la contrainte sanitaire. Avec nous jusqu'à 13h30, l'économiste franco-américaine Esther Duflo, elle est professeure au Massachusetts Institute of Technology. Elle a co-signé au printemps dernier avec Abhijit Banerjee « Économie utile pour des temps difficiles, c'est au seuil ». Je rappelle que vous êtes aussi co-lauréate du prix de la Banque de Suède, dit prix Nobel d'économie 2019.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Alors que nous affrontons la pandémie de Covid-19, nous sommes au bord d'une pandémie de la faim. 135 millions de personnes sont déjà proches de la famine dans le monde. Mais avec le coronavirus, le programme alimentaire mondial estime que 130 millions de personnes supplémentaires pourraient être au bord de la famine d'ici la fin de l'année.
Les mots de David Beasley en avril dernier, directeur exécutif du programme alimentaire mondial, Esther Duflo, la pauvreté. Vous étiez plutôt optimiste dans votre essai paru en mars dernier sur les progrès réalisés ces 20 dernières années. Est-ce que vous redoutez aujourd'hui une vraie marche arrière, une pandémie de la pauvreté?
C'est difficile de faire des pronostics. C'est difficile de faire des pronostics. Donc je vais bien m'en garder. Les estimations chiffrées sont un petit peu fantaisistes en quelque sorte. Cela dit, un des grands moteurs de la réduction de la pauvreté dans le monde, c'était la réduction de la pauvreté en Chine et en Inde. Le PIB de l'Inde vient de chuter de 24%. De la même manière que dans les pays riches, le coût de la pandémie n'est pas égal et porté plus directement par les plus pauvres. Donc on peut s'attendre à une forte augmentation de la pauvreté en Inde. Mmh. Dans les autres pays pauvres, c'est la même chose, c'est-à-dire le problème de la pauvreté, c'est que quand on est suffisamment pauvre, il y a des phénomènes de trappe de pauvreté, c'est-à-dire c'est de plus en plus difficile de ressortir d'un état de pauvreté. Et ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, c'est dû à une combinaison de croissance économique mondiale, de bonnes politiques aussi, que ce soit sur la santé ou l'éducation, dans beaucoup de pays, même très pauvres, il y a eu des sorties de ces trappes de pauvreté. Mais le coronavirus risque de faire retomber les gens dedans et donc de prendre non pas des années, mais potentiellement des décennies à revenir au niveau où on était avant. Et c'est pour ça que très au début de la pandémie, on a écrit un article avec Abhijit Banerjee pour dire il faut immédiatement faire un plan Marshall vers les pays pauvres pour soutenir le pouvoir d'achat des plus pauvres des pays pauvres avec des transferts monétaires très largement distribués, quasiment inconditionnels, etc. Mais malheureusement, les pays riches se sont complètement refermés sur eux-mêmes, ont très très peu fait pour les pays pauvres. Il y a eu un petit peu de rationnement de la dette, mais à peine. Et c'est vraiment je trouve que c'est une responsabilité que les pays riches vont porter pour les prochaines décennies, parce que vraiment ils ont perdu une occasion de faire quelque chose. Au moment où ils dépensent des mille et des cents pour eux-mêmes, comme on le discutait précédemment, à juste titre, ils auraient pu rajouter juste un tout petit peu pour aider les plus pauvres du monde, que ce soit en Afrique ou en Asie du Sud, et ça n'a pas été fait. Et ça, c'est vraiment
dommageable, c'est vraiment pour pathétique. Vous. Ouais. On a vu même dans les pays riches, dans nos pays, des nouveaux pauvres apparaître, ou une pauvreté existante jusqu'ici révélée, rendue visible par la crise. Ça a été le cas en France, où on a vu des files d'attente se créer pour avoir accès à des biens de première nécessité, aux aides alimentaires, notamment dans certains quartiers en région des grandes villes pendant le confinement. Aux États-Unis, États-Unis, la courbe des demandeurs d'allocation chômage a grimpé dès le premier jour de l'arrivée de la pandémie déclarée comme telle aux États-Unis. Est-ce que cette crise va aussi changer notre regard sur la pauvreté? Dans ce livre, vous apportez aussi une perspective historique. Le 15 février 86, Ronald Reagan s'adresse à la nation dans un discours à charge contre les programmes d'aide sociale, cette culture de la pauvreté qui s'installe extrême.
Nous courons le danger de créer pour toujours une culture de la pauvreté, aussi inflexible que la plus solide des chaînes. Une deuxième Amérique, une Amérique à part, une Amérique du rêve anéanti, de la vie avortée. L'ironie, c'est que c'est le système d'aide sociale, mal conçu, créé au nom de la compassion, qui a fait d'un problème en recul une tragédie de dimension nationale. Depuis les années 50, la pauvreté en Amérique déclinait. La société américaine, une société d'opportunités, accomplissait son miracle. La croissance économique offrait à des millions d'Américains une échelle pour sortir de la pauvreté et s'élever jusqu'à la prospérité. En 1964, a été déclarée la fameuse guerre à la pauvreté. Et il s'est alors passé quelque chose de curieux. La pauvreté, mesurée par la Sistana, a cessé de reculer. Puis elle a commencé à s'aggraver. Je crois que l'on peut dire que c'est la pauvreté qui a gagné cette guerre. Elle a gagné parce qu'au lieu d'aider les pauvres, les programmes d'aide sociale ont brisé les liens qui tenaient unis les familles pauvres.
Voilà, là où Roosevelt voyait dans la pauvreté un fléau et appelait à mobiliser les moyens de l'État pour la vaincre, Reagan condamne à ce moment-là, dans les années 80, la Sistana et parle d'une Amérique du rêve anéantie. J'en reviens à aujourd'hui, on terminera là-dessus, Esther Duflo. La semaine dernière, le candidat démocrate Joe Biden, candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine de novembre, a reproché à Donald Trump de ne pas ressentir les difficultés économiques causées par la pandémie, par la crise sanitaire. Est-ce que ces préjugés qui consistent à stigmatiser les pauvres aussi comme des paresseux, à stigmatiser ce système d'aide sociale, continuent à perdurer?
Ce préjugé domine encore à la fois le discours et les pratiques de l'aide sociale aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis. C'est pas à un degré ou à un autre, on retrouve ça dans toutes les politiques sociales, une combinaison de méfiance et de paternalisme qui dit qu'il faut quand même pas trop aider les gens parce que justement, il faut continuer à les responsabiliser, pour reprendre le mot responsabiliser. Et aux États-Unis, on en a vu la manifestation là de manière vraiment tragique ces dernières semaines, puisque en mars, ils avaient immédiatement, très très rapidement, réussi à se mettre d'accord assez miraculeusement sur un soutien aux chômeurs de très très simple et quasiment universel, qui était, je pense, beaucoup moins bien que la réaction française de chômage partiel, mais au moins que quand quelqu'un est au chômage, ils avaient droit à $600 par semaine, pas de question. Et puis, on a commencé à entendre des républicains dire que quand même, c'était beaucoup, et puis ça rendait les gens paresseux, parce que pourquoi travailler quand vous avez le droit à $600 par semaine? Et le programme s'est arrêté, enfin, est arrivé à expiration et n'a pas encore été renouvelé. Et du coup, au début aux États-Unis, il y a eu malgré les images de longues lignes, etc., quand même, il y a pas eu d'augmentation de la pauvreté, malgré l'explosion du chômage.
Et ça pourrait arriver maintenant. Et c'est un sujet qui ça va arriver. Et c'est un sujet qui va faire débat. On ne sait pas s'il sera résolu, mais il sera en tout cas présent dans cette campagne et on verra les clivages se réaffirmer. Énorme merci à vous, Esther Duflo. Tous ces préjugés, vous les démontez, au moins vous les travaillez, vous les discutez dans votre livre « Économie utile pour les temps difficiles » qui a paru au Seuil. Merci beaucoup à vous. Un grand merci. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Oriane Delacroix, Henri Leblanc et Jean Bulot pour leur programmation. Alors à Dutèche Pérez pour la préparation de cette émission. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Jean Guilhemège.